Bonjour, bienvenue à Je vais au ciné. Aujourd'hui avec moi j'ai Antoine.
Guten Tag.
Guten Tag Antoine. Et j'ai Michael avec moi.
Bonjour.
Bonjour. Aujourd'hui on va faire une émission un peu spéciale à la veille des fêtes.
Et quoi donc?
Eh ben on va parler des films de Noël.
Quelle originalité.
Et donc on a fait une petite liste. On va peut-être pas faire tous les films qu'on avait fait sur notre petite liste, mais on a fait une petite liste des films de Noël qu'on a vus, parce que ceux qu'on n'a pas vus, on s'en fiche un peu. Et puis on va pas en parler.
Et bah on va avoir du mal à en parler surtout.
Bah surtout, ouais,
on
va
surtout.
Et puis
on devrait faire une émission une fois de films qu'on n'a pas vus, voir si on s'en sort.
Mais ça va peut-être être
crash.
Très terrible.
Là, ça va être plus une émission, ça va être un crash test.
Oui. Donc on va peut-être commencer par un film. Et puis on va peut-être faire un film que tout le monde connaît peut-être. Maman, j'ai raté l'avion, tout le monde le connaît celui-là.
Alors moi j'ai une enfance assez malheureuse.
Tu n'as jamais vu Maman, j'ai raté l'avion.
Je n'ai jamais vu Maman, j'ai raté l'avion. En plus, pour deux raisons. Un, parce que je ne l'ai jamais vu. Et en fait, en me renseignant dessus, j'ai vu qu'il y avait Joe Pesci qui avait joué dedans.
Ouais.
Et non. Non.
Avec Macaulay Culkin et Daniel
D'accord.
Stern.
Et non.
Non, non, parce que tes parents te faisaient regarder L'Inconnu du Lac.
C'est ça.
Quand t'étais gosse, c'est pour ça.
Eh ben, Maman, j'ai raté l'avion. Alors, il y a deux films, et après, il y a une tonne de téléfilms dont je vous conseille pas, parce que c'est pas avec Macaulay Culkin, donc c'est beaucoup moins intéressant. Donc, c'est réalisé par Chris Columbus. Et c'est un enfant qui se retrouve...
Harry Potter, ça ? Chris Columbus, c'est pas lui qui a fait
les deux premiers d'Harry Potter, Harry Potter, oui, tout à fait.
Mais avant, il a fait Maman, j'ai raté l'avion. Home Alone, en version originale. Et donc, c'est un gamin qui reste chez lui tout seul parce que ses parents l'ont oublié. C'est tout con. Mais par contre, il y a des voleurs qui veulent essayer de rentrer chez lui pour voler. C'est le principe de voleur. Et il fait tout pour les empêcher de rentrer. Donc, c'est le principe du film. Et il se débrouille plutôt bien. C'est même pour ça qu'ils en font un 2 et une multitude derrière, parce que c'est un concept facile à faire. Quoi.
Et avec des succès plutôt divers quand même.
C'est surtout que les deux premiers étaient vraiment bien et que la suite, c'est reprendre le même principe.
Bon, au bout d'un moment, c'est lassant.
C'est lassant.
Et alors, pour faire suite à la conversation qu'on a eue avant l'enregistrement, est-ce un film intelligent? Et en quoi est-ce un film intelligent?
Intelligent, je sais pas. Drôle, amusant, qui te fait passer un bon moment, oui. Il y a des choses qui ont été créées pour le film qui sont assez drôles, genre les scènes de vieux films en noir et blanc qui sont vraiment assez. Enfin, voilà. C'est une multitude de gags, c'est un film à gags, je pense, plus qu'autre chose.
Oui, tout à fait. Oui.
Donc voilà, c'est un petit film rigolo. Si vous l'avez jamais vu, c'est un film qui date des années 90. Il est dans son époque, il est dans son jus. Il marche bien parce que c'est un gamin qui fait pas, comment dire, pas des conneries, mais presque, quoi.
Oh, un peu quand même.
Un petit peu, voilà, il s'amuse.
Quand il se rend compte que ses parents l'ont oublié, dans les le premier quart d'heure, il kiffe. Hein.
Oui, il kiffe.
Il kiffe.
Pas longtemps, mais il kiffe.
Pas longtemps. Hein. Au bout d'un moment, il se dit, purée, mais comment je vais faire pour manger?
Voilà. mais globalement, il se marre bien, même dans le 2 où... pour raconter rapidement le 2, il va en fait il se trompe de destination, il va à New York et là-bas il faut qu'il se débrouille et il va s'éclater à New York.
C'est une ville, donc le jeu c'est plus le terrain d'exploration,
c'est plus sa maison qu'il connaît, là c'est carrément un endroit qu'il connaît pas, donc c'est ils ont su renouveler l'expérience.
Et ils auraient dû s'arrêter là.
Et oui, mais après ils l'ont vendu pour la télé et ça faisait du voilà. Bon, bref, ils ont fait de l'argent quoi. Et c'était plus Chris Columbus aux manettes. Mais oui, c'est un bon film de Noël. C'est un film qui se passe déjà au moment de Noël et puis c'est rigolo.
C'est pour toute la famille. Voilà. Les enfants vont aimer, les parents vont aimer. Voilà. Ça évite de se taper les films pour enfants que t'as juste pas envie de voir.
Oui, exactement. On va enchaîner avec un autre.
Moi j'ai un petit film. Alors moi c'est une nouveauté.
Ah.
C'est un film qui est disponible depuis mi-novembre sur Netflix. C'est un film d'animation. Donc ça s'appelle Klaus.
La légende de Klaus, je crois en français.
Ouais, je sais plus.
Klaus c'est la version originale, mais.
Je pense que c'est Klaus.
Donc le résumé vite fait, c'est Jasper qui est le plus mauvais élève de son école de postier. Et il fait rien pour être bon, hein. C'est un vrai feignant. Et en plus, comme c'est le fils du PDG du service postal de son pays, il se fout pas trop car il pense que tout va lui arriver dans la bouche.
Ouais.
Et en fait, mon papa ne l'entend pas de cette oreille et pour l'endurcir, va le muter dans le Grand Nord local. Et donc, il va arriver dans un village qui se trouve être séparé en deux clans, en fait. Et ces deux clans se font la guerre depuis l'origine des temps. Et donc, comme le village est en guerre, et ben, le service postal ne sert à rien. Il va déprimer et avant de baisser les bras, et ben, il lui vient une idée, en fait. Voilà, j'en dis pas plus sur le scénario. Alors moi, ce qui m'a plu, et je pense que Mika, c'est pour ça que je te vois faire la tête, c'est quel est le rapport avec Noël? Parce que pour l'instant, il n'y a rien
Non, il n'y a rien qui
y a rien
rappelle
qui rappelle
Noël.
Noël, et c'est ça que je trouve bien, en fait, c'est
Mais
que...
oui,
À part
il est
Klaus,
Santa
c'est ça, non, mais
Claus.
c'est ça, c'est
Mais
qu'en fait,
c'est pour ça qu'il est bien, le film.
c'est une préquelle au Père Noël, enfin, une préquelle, hein, c'est...
Non, c'est une... comment dire? Non, c'est plus qu'une préquelle. C'est plus comment le Père Noël
Comment a
a
été
été
créé,
créé.
voilà,
Voilà.
c'est ça. Et en fait,
C'est
le
la
Père
genèse
Noël,
de la pyramide du
c'est
Père
ça,
Noël.
c'est Genèse. Et en fait, le Père Noël arrive à la fin du film. À bout d'un moment,
On
on
comprend un
comprend
peu.
rapidement. Mais ce que je trouve bien, c'est que moi, un truc que j'aime pas dans les films de Noël, c'est un peu
Leur côté un peu
leur
gnangnan,
côté
peut-être.
gnangnan,
Ouais.
voilà. Où, bon, j'en ai vu pas mal dernièrement. Là, c'est un peu tous pareils. C'est plein de bons sentiments. C'est de la musique sirupeuse. Alors moi, je parle pas des. J'ai vu beaucoup plus de téléfilms que de films de cinéma. Donc, et je trouve que celui-là, eh ben, il évite tout ce côté-là, en fait.
Oui,
Même graphiquement, il est super mignon.
il est beau. C'est
Ouais.
un film espagnol de Sergio Pablo. Et il a été, alors déjà pour une partie technique, il a été enregistré avec des voix anglaises pour un film espagnol, c'est quand même pas fréquent. Et il a été, ouais, il a été fait pour l'international. Ça a été payé par Netflix en grande partie. Et ce film reprend les codes du Père Noël, c'est-à-dire qu'il va intégrer un certain nombre de choses qu'on a l'habitude d'entendre ou de voir sur le Père Noël, et ils vont les mettre dans le film, mais de façon subtile, de façon intelligente. Ils vont rien forcer, ils vont rien obliger à mettre des. Enfin, ils sont pas obligés à faire certaines choses, et je le trouve plutôt bien, amusant, qui passe pour tout le monde, aussi bien pour les plus jeunes que pour les
Bah, moi, en
plus
tant
âgés.
qu'adulte, j'ai pas trouvé ça con, en fait. J'ai pas trouvé ça gnangnan, en fait.
Bah oui, non mais ça passe vraiment
Et
pour
le
toute la
film est,
famille.
ouais, le film est passé sans que je
Et puis
trouve
t'as
long, en
même
fait.
d'autres lectures, je trouve, pour des gens un peu plus âgés qui connaissent bien le sujet ou même qui ont quand il y a des affrontements, c'est pas juste ils se battent. Tu retrouves les mêmes scènes à certains moments avec avec des versions différentes de la même scène. Enfin, il y a vraiment
Je
une.
trouve que ce film est intelligent.
Oui.
Je trouve qu'il propose, mais il propose quelque chose, en fait.
Bah, et
Enfin,
puis le scénario est intéressant, c'est-à-dire qu'il est pas commun. On parle d'un sujet en parlant de la Genèse, pas de quelque chose qu'on connaît déjà. Et il donne une interprétation en fait de quelque chose qu'on connaît
et
finalement.
puis c'est vrai que en plus. Bon, moi je suis pas un grand fan de films d'animation, mais de ce que je connais, c'est un peu souvent la même chose. C'est soit Disney, soit DreamWorks. Et je trouve que le fait de revenir à une animation 2D.
Oui, non, mais il y
Pardon.
en a plein d'autres, hein. Mais ça, c'est
Non,
les
mais il y en a plein
Américains.
d'autres, mais moi je suis pas. Je connais rien en manga, donc
Mais non,
là-dessus.
mais même en européen, on n'en est pas là. Enfin,
Ouais, c'est vrai, mais bon, on va dire que les
bah,
canons
les
du
canons sont
genre
américains.
restent Disney, restent américains. Et c'est vrai que ouais, le retour à la 2D, enfin le retour, non, je vais pas dire ça, mais le fait de faire quelque chose en 2D amène une patte graphique et il y a même une. Moi, ce que j'ai aimé, alors. Si jamais vous le voyez, vous arrêtez pas aux premières images parce que c'est vrai que c'est un peu, on va dire, une couleur assez fade. Et en fait, la couleur, le film, alors le film est en couleur, hein, mais on va avoir peut-être au début des couleurs un peu délavées. Et au fur et à mesure où dans le village la paix va arriver, les villageois, les clans vont arrêter de s'affronter. En fait, le film va prendre en couleur et
C'est normal
j'ai
puisque
trouvé ça super sympa, en fait, super intelligent.
la couleur vient avec la joie de vivre. Le départ, c'est morose,
Ouais, non,
donc
mais
c'est
je.
tout hyper sombre. Il n'y a quasiment pas de couleur. Et au fur et à mesure, la couleur arrive. Même la lumière arrive tout court, parce
Ouais,
que
non, mais
on dirait qu'on arrive dans la nuit, dans une espèce
De brume,
de
ouais,
brume,
enfin.
de moment où c'est très très gris. Et puis le soleil commence à venir un peu quand ça commence à s'améliorer un peu. Les choses changent, quoi, en fait. Et tout le film est bien fait, bien construit sur ce sujet-là. ou même sur l'humeur de ce personnage-là. Qui est...
Ouais, il est rigolo, il est pas. Et je trouvais qu'il ressemblait pas aux archétypes qu'on peut voir. Enfin, bah, que puis... moi je peux voir dans les dessins animés.
Et puis même les autres personnages sont pas juste là pour accompagner le héros.
Bah, même la fille là, qui bon, on déduit rapidement que ça va être sa copine, mais elle est pas. Je trouve qu'elle est, elle est pas idiote. Enfin.
Oui, voilà. Et puis c'est pas juste une faire-valoir. Elle a sa propre, fait, ouais, elle a sa propre vie, elle a ses propres objectifs. Donc effectivement, c'est un film intéressant sur ce sujet-là.
Un film scénaristiquement intelligent.
Mais pas que scénaristiquement, même il est beau graphiquement, au niveau de la réalisation, il y a eu des choses qui ont été bien faites, je trouve.
C'est un film qui aurait mérité de sortir au ciné, je pense.
Ouais. Oui, oui, mais je suis pas sûr qu'il aurait un gros succès.
Ouais, je pense qu'on aurait parlé plus de plus. Il aurait fait parler plus de lui.
Mais ça aurait été du bouche à oreille. Mais est-ce que le bouche à oreille aurait suffi? Je sais pas. Je suis pas sûr.
Suffire.
Ça peut suffire. Je sais pas. Je suis pas sûr. Mais peut-être.
Éternel débat.
Voilà. On va se faire une petite pause musicale, je pense. Ça peut être bien. Et puis on revient avec d'autres films. Et là, on va partir sur un petit film. On va partir carrément sur la musique du film qu'on vient de parler, Klaus, chanté par Zara Larsson. Ça s'appelle Invisible.
Ah, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de chant aussi dans.
Si, c'est la seule qui
vous chante. C'est la seule, vous êtes à la fin, je sais pas, mais ça chante pas une fois.
Ça chante très peu. How many nights did I lie awake in the darkest place? How many days did you shed the pain of your darker days? All I know is if happy lives on the way, a couple steps is all it takes. If kindness lives in everyone, then all it takes is standing up. Can't touch it, see it, but you can always feel it. The greatest things you'll ever know. Voici.
Bon, c'est juste pour revenir à Klaus, hein. En fait, la chanson, c'est le truc le plus mauvais de.
Non, elle est sympa cette chanson. Elle marche en plus très très bien en ce moment. On va faire quoi comme film là? Allez, on se fait un petit film d'action. On se fait la trilogie Die Hard.
Allez,
on se la fait la trilogie Die Hard. Alors, on va pas expliquer ce qui se passe dans les trois films Die Hard.
Parce que sinon, il n'y a aucun intérêt d'avoir le film.
Voilà. Globalement, c'est des films d'action qui se passent dans le premier dans une tour, dans le deuxième dans un aéroport et dans le troisième dans la ville de New York. Globalement, c'est ça.
C'est ça.
C'est pas le 2, le New York ?
Non, c'est le 3e. Ouais. C'est toujours de plus en plus gros, en fait. Au départ, c'est juste une tour. Après, c'est un aéroport, et même un peu plus qu'un aéroport. D'accord. Et en dernier, c'est toute la ville. Voire même un peu plus, parce qu'ils sortent de la ville.
Ouais, un petit peu, ouais.
Mais globalement, plus le temps passe, plus ça devient impressionnant. Je trouve même que le 3e est le plus réussi. Parce que... Ah si, quand même, il est bien.
Il est bien. Mais moi, pour moi, le premier clairement reste au-dessus parce que dans le 2 et le 3 que j'ai bien aimé hein, je dis pas hein, mais il y a un petit arrière-goût de j'ai déjà vu machin c'est il y a pas la surprise parce que quand t'as le premier t'as la surprise tu découvres le personnage Alan Rickman est super en méchant. Moi, j'adore. Hans Gruber. Franchement, c'est probablement le méchant le plus intéressant de Die Hard.
Oui, mais puis c'est aussi un méchant qu'on voit tout au long du film.
Aussi.
Alors que dans les autres versions, c'est pas le cas.
Les méchants sont plus anecdotiques, clairement.
Bah, et puis on les voit pas tout le film, surtout.
Ouais. Donc pour moi, le premier reste au-dessus. Le deuxième a ce petit côté redite en plus gros.
Oui. Mais le troisième, par contre, ils ont su recréer quelque chose de différent avec un duo avec Samuel L. Jackson.
Oui, le duo était bien vu. Ouais.
C'est le même réalisateur pour le premier et le troisième, en fait.
Je suis pas sûr, non.
C'est le deuxième qui est pas le même.
Oui, t'as raison.
Ouais, parce que
c'est
en
John
fait,
McTiernan pour le premier et le troisième, et sur le deuxième, c'est Rémi Harlan.
J'avais entendu dire qu'ils avaient inversé la géographie du film, en fait. Le premier, il se passe à Los Angeles.
C'est possible.
Dans une tour verticale, en fait.
Bah, c'est une tour verticale.
C'est toujours verticale. Mais c'est surtout que t'as Los Angeles, qui est une ville, on va dire, plate. Enfin, il n'y a pas beaucoup de buildings par rapport à New York, en fait. Mmh. Et ils ont fait donc un building dans New York, dans Los Angeles. Donc, ils ont fait le film. Ils ont fait un film vertical dans une ville horizontale. Et pour le 3, ils ont fait l'inverse, en fait. L'action se passe à New York, qui est une ville en hauteur. Mmh. Par contre, la ville, l'action reste au ras du sol. Ouais.
Voire même au sous-sol.
Ils ont inversé la géographie des villes par rapport au film.
Bah, et puis en plus, pour ceux qui ne le savent pas, pour le premier, Nakatomi Plaza, c'est les futurs bureaux de la Fox. C'est-à-dire qu'ils étaient encore en construction et ils sont servis uniquement de quelque chose qu'ils ont déjà, qui est leur tour en construction. Donc
oui,
toutes les parties qui sont en travaux sont réellement des travaux. C'est pas un décor, c'est vraiment des travaux. Donc c'est le premier film a été fait avec relativement peu de moyens. Les suivants avec un peu plus. Mais le premier film Die Hard, oui, c'est un petit film, on va dire, un petit film d'action.
Comme quoi, s'il y avait encore besoin de le préciser, il n'y a pas besoin d'un budget gargantuesque pour faire un film qui se tient. Hein.
Bah oui, non, mais c'est sûr. En plus, il y a très peu d'acteurs. Enfin, il y a des figurants, mais il y a très peu d'acteurs dans le premier Die Hard. Même dans les suivants, il n'y en a pas forcément.
Oui, beaucoup. Oui.
Moi, je me souviens d'avoir, d'avoir enregistré, d'avoir vu le 1 sur VHS.
Oui,
et l'enregistrement avait foiré, j'ai jamais vu la fin de ce film.
Et ben, c'est dommage, c'est triste.
Il faudrait que je
le revoie.
Au moins les trois premiers.
Oui, tu peux t'arrêter là.
Oui,
après, je ne sais pas, je les ai pas vus les autres, mais.
Non, mais franchement.
Mais voilà.
On peut s'arrêter là. Là, après, on est sur du Taken, mais en plus mauvais.
On se refait un petit film d'animation. T'as une idée ou
L'étrange Noël de Monsieur Jack.
Ah, on peut faire celui-là. Ah oui, on peut faire celui-là.
L'étrange Noël de Monsieur Jack. Un film de... on va le dire, hein, de Tim Burton.
C'est pas lui qui l'a réalisé.
Ouais, mais franchement...
C'est Henry Selick.
Voilà, mais franchement, chaque plan, chaque décor, chaque personnage transpire le Burton par tous les pores.
C'est le meilleur film de Burton, pas réalisé par Burton.
C'est dans ses meilleurs, oui, clairement, ouais. Il y a deux têtes sur ce film. C'est un film à deux têtes. D'un côté, tu as Tim Burton au scénario,
à la production,
à la production graphique et tout ça. Et de l'autre côté, tu as Danny Elfman. Parce que l'étrange Noël de Monsieur Jack, pardon, je vais y arriver, sans musique, pas de film. Clairement, ah oui, oui. Clairement. Et puis c'est un film qu'ils ont conçu à deux têtes. Et d'ailleurs, c'est assez marrant que, en fait, Tim Burton et Danny Elfman, c'est le duo où ils ont travaillé. Tous les films de Tim Burton ont été mis en musique par Danny Elfman, mmh. sauf un. Parce que, en fait, sur le tournage de L'étrange Noël de Monsieur Jack, ils se sont embrouillés et ils ne se sont plus parlé pendant 3 ans. À tel point que les deux, ils étaient constamment l'un sur l'autre parce qu'ils devaient, parce que voilà, ils travaillaient en parfaite symbiose, que ça a pété. Oui, et du coup, ils se sont pas parlé pendant 3 ans. Et c'est pour ça que le film suivant de Burton, Ed Wood, a été mis en musique par Howard Shore et pas par Danny Elfman. Danny Elfman l'a rejoint sur le suivant.
Non, je connaissais pas cette anecdote-là, mais ce qui est intéressant avec ce film surtout, c'est que c'est un film musical. C'est bourré de chansons. Moi, qui suis pas très films musicaux, parce que comédie musicale, c'est pas toujours des comédies.
Excusez-moi, je suis là.
Mais films musicaux, celui-là, il est bien en plus. Et puis, on retrouve pas forcément une patte Disney. C'est-à-dire que sur les films de l'époque, c'était beaucoup.
Mais c'est
de
pas
films.
Disney.
Mais si, non, si. Mais t'avais la patte Disney souvent à l'époque.
Si, c'est Disney qui produit. Ouais.
Oui, et puis t'as souvent la patte Disney. C'est-à-dire que c'est des films musicaux avec de l'animation. Et même si c'était pas Disney qui produisait, t'avais l'impression de voir un Disney. Et là, justement, ça a changé un peu le genre. En plus, le sujet n'était pas forcément les princesses et c'était un peu plus sombre.
C'est même carrément plus sombre. Mais c'est ça aussi qui fait que Burton, on peut le dire, cartonne dans ses films d'animation. C'est qu'il a et dans ses films, du moins à une certaine époque... Les films d'animation, pour moi, restent bons chez Burton. Ces films live, il y aurait des choses à redire.
Bah, il a commencé dans l'animation.
Voilà, c'est pas le... Mais je m'éloigne du sujet, je digresse. Le truc avec Burton, c'est qu'il a une représentation toujours joyeuse de la mort. Le mec, il doit être ultra morbide, mais il a toujours une représentation joyeuse de la mort. Et on le voit dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est pour moi, sur ce point précis, pas sur le reste, parce que après ça n'a rien à voir, mais sur ce point précis est un prémisse aux noces funèbres, oui. Où aux noces funèbres, on voit clairement que les morts s'éclatent, ils sont heureux de vivre, et les vivants, c'est morne, oui. C'est triste, c'est horrible.
C'est une horreur.
C'est les morts qui s'éclatent.
Ils n'ont plus de règles, en fait. Les morts n'ont plus de règles, alors que les vivants en ont plein et ils sont coincés. Et oui. Bon, je préfère quand même Les Noces Funèbres, mais ce n'est pas un film de Noël.
Ah, pas du tout.
Justement.
Pas du tout. Mais L'étrange de Noël, Monsieur Jack, est vraiment un super film de Noël avec des super musiques.
De Noël et d'Halloween.
Ouais, ça passe. Les deux passent. Ça commence sur Halloween, ça finit à Noël. C'est impeccable.
Bah, c'est juste l'événement qui suit. Hein.
Voilà, c'est la période. C'est pile de la période.
On va enchaîner sur une petite musique. Run Rudolph Run de Chuck Berry, qu'on entend dans plein de films, genre Home Alone. Pour le citer que lui, et puis on se retrouve juste après. Out of all the reindeers, you know you're the mastermind. Run, run, Rudolph, Randolph ain't too far behind. Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Him hurry, tell him he can take the freeway down.
I'm reeling like a merry-go-round. Said Santa to a girl child, what would please you most to get? A little baby doll that can cry, sleep, drink, and wet. And then away went Rudolph, whizzing like a saber jet.
Nous revoici pour cette spéciale Noël avec comme film, on va parler de Love Actually. Alors c'est quand même un film de comédie romantique obligatoire au moment de Noël. Enfin obligatoire pour un certain nombre de personnes.
Oh, ouais, presque, hein. Presque. On peut dire presque.
Ouais, presque obligatoire pour un certain nombre de personnes. C'est un film réalisé par Richard Curtis avec. On va en citer quand même quelques acteurs qui sont dedans. Hugh Grant, Liam Neeson, Emma Thompson, Keira Knightley. Ah, j'ai toujours du mal à dire.
Keira Knightley.
Voilà. qui sont quand même des très, très grands acteurs. Il y en a encore pléthore dedans, parce qu'il y a quand même énormément d'acteurs dedans.
Ouais. En revoyant le film dernièrement, d'ailleurs, je suis tombé sur Martin Freeman.
Oui.
Mais, oh, le Hobbit, il est là.
Mais il y a tellement d'acteurs.
Alors que t'aies vu le film, ok. Que t'aies revu le film. Je sais pas, là je me pose des questions.
Mais ce film est assez amusant dans le sens où c'est plein d'histoires dans oui. La même histoire finalement.
C'est ça qui est le tour de force qui est fait par le réalisateur et qui a été assez repris. Oui. Avec, à mon sens, beaucoup moins de réussite, ouais. C'est de réussir à construire tout un tas d'histoires parallèles sans que le film se perde. À aucun moment, t'es perdu dans le film, à aucun moment, tu te dis, oula, ça part dans tous les sens le truc.
Bah, et puis ça se croise, mais ça se croise bien.
C'est là où, dans le film, il faut qu'il fasse descendre une grosse boule là, sur, sur Times Square, non ? Pour le 25 ou le... Ouais, je sais plus, j'en ai... Ils se ressemblent tous, ces films, et à un moment, il y a une boule qui descend sur Times Square. Non, c'est pas celui-là, ça doit être un autre. Alors.
C'est peut-être un autre. Je me dis rien du tout.
Ça me dit quelque chose, cette scène-là, mais je crois pas que ce soit Love
Actually. De toute façon, Love Actually, c'est anglais, alors Times Square, ça me paraît compliqué.
Ah, c'est anglais ? Ou c'est en Angleterre ou aux États-Unis ?
C'est en Angleterre.
C'est en Angleterre, Love Actually.
Non, non, c'est pas la même chose. D'accord.
C'est pas un genre coup de foudre à je ne sais où, là.
Non, 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 ça se passe en Angleterre, tous les personnages, ça arrive en Angleterre, donc ça me paraît compliqué, Times Square. Mais oui, c'est un... En plus, alors... On m'a fait la réflexion il n'y a pas longtemps où, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un d'autre dans un film que j'ai vu ou une série, je ne sais plus, où il disait que Love Actually, il y a quand même assez peu de chances que tout ce qui s'y passe se passe réellement. C'est-à-dire que le premier ministre britannique qui tombe amoureux de sa jeune... de la jeune femme qui travaille avec lui et que ça se passe aussi bien et que voilà, et ça manque de péripéties, c'est-à-dire que tout se passe quand même relativement bien dans ce film, tout est plutôt bienveillant, enfin il y a pas vraiment de complications.
Oui, mais c'est le côté là pour le coup c'est vraiment le côté Noël, c'est magie de Noël, c'est plein de bons sentiments, c'est mignon, tout le monde est content, tout le monde est heureux.
C'est un peu le côté un peu trop mielleux, mais sinon, c'est tout à fait dans une comédie romantique. Quoi. C'est une comédie romantique, en plus avec plein d'histoires différentes. Donc, c'est difficile de mettre beaucoup de rebondissements. Mais ça marche, ça fonctionne. On aime ou on n'aime pas, c'est comme tout.
Les goûts et les couleurs, c'est une comédie romantique. Donc, déjà,
donc on aime ou on n'aime pas, mais ça. Ce film fonctionne. Il fonctionne, il a prouvé qu'il pouvait fonctionner.
Je suis d'accord. Et pourtant, je suis pas un grand spectateur de films de comédie romantique, mais celui-là, ça passe.
Juste pour replacer là, le réalisateur, donc.
Richard Curtis.
Pardon. C'est lui qui a réalisé aussi Good Morning England. Je sais pas si vous l'avez vu. Et qui, cette année, il y a un film de lui, enfin, un film d'après un scénario de lui qui est sorti, donc réalisé par Danny Boyle, qui s'appelle Yesterday.
Ah oui.
Mais je l'ai pas vu. Hier,
oui, c'était sympa. C'était une comédie romantique aussi, ça. C'est... Au début, on pensait voir un biopic sur,
sur
les
fond
Beatles.
De Beatles. Ouais.
En fait, non, non, c'est une comédie romantique. Donc voilà, fin de la parenthèse.
Mais oui, c'est un bon réalisateur. Good Morning England est excellent. C'est un très très bon film sur la musique au moment en Angleterre cette époque-là. Bon, on va finir la, la digression. On se fait un petit dernier film. Allez, un rapide. Qu'est-ce qu'on a sous la
un
main
rapide.
Allez, Scrooge. On se le fait en rapide, celui-là.
Scrooge.
Le drôle de Noël de Scrooge.
Allez, bah on t'écoute.
Alors, le drôle de Noël de Scrooge. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est tiré d'un roman, enfin même d'un conte, si j'ai bon souvenir, où un personnage très avare va rencontrer ses Noëls passés, présents et futurs. Et il se rend compte qu'en fait, son avarice ne lui amène rien en fait, dans sa vie. Il ne lui amène ni joie, enfin rien finalement. Et à part de l'argent, il n'a rien. Il est tout seul, il fait Noël tout seul, il vit tout seul. Il dit, enfin, personne ne l'apprécie, personne ne l'aime. Il, voilà, il a vraiment une vie terne et morose. Et tout l'intérêt de ce film, c'est que, comment dire, il va évoluer, il va se rendre compte de ce qu'il est, et petit à petit, il va avoir ce principe de magie de Noël qui va arriver et qui va finir par le rendre meilleur, plus heureux, plus bienveillant. Alors qu'il ne l'était pas avant, alors qu'un sou était un sou avant, rien d'autre ne comptait quoi, dans sa vie.
C'est fou toute cette bienveillance qu'il y a à Noël. Non, mais c'est,
bah, c'est le principe de Noël.
Non, mais oui, mais pourquoi c'est pas après? Pourquoi c'est pas avant? C'est que ce jour-là où on aime tout le monde, où on donne à tout le monde. Ouais,
c'est,
après,
c'est très chrétien, ça.
Voilà,
c'est le principe. Mais je fais une toute petite parenthèse parce que c'est assez amusant. C'est que ce film a, je pense, servi d'inspiration à un épisode de Noël de la série Doctor Who, et où justement le principe est repris le même. C'est un épisode dans lequel le docteur voyage dans le passé, il fait tous les Noëls pour justement rendre un vieux bonhomme plein de bourrées de thunes mais seul plus gentil, plus ouvert à l'autre, bon, en l'occurrence pour qu'il sauve des gens, mais voilà, c'est ça l'idée. Et du coup on voit, il y a quand même un lien avec cette histoire qui est évident en fait. Je sais pas si ça a servi de modèle, mais franchement,
bah, de toute façon le conte ou l'histoire originale a servi à plein de,
c'est très populaire, hein,
c'est très populaire, c'est très connu. Le film a peut-être aidé à le rajouter dans la culture populaire parce que ça l'a fait connaître au monde entier. Alors, c'était quelque chose de très anglo-saxon, mais ça a été pris dans plein de séries, plein de films où ils ont repris l'idée générale, mais ils s'en sont servis comme un pastiche. Maintenant, le film est bon pour ce qu'il est, pour ce qu'il raconte, mais et puis l'acteur principal, j'oublie son nom, mais
Jim Carrey, non?
C'est Jim Carrey, me semble, oui, ça doit être ça.
Mais c'est quoi le rapport avec le monstre vert là? Parce que soit j'ai loupé.
Non,
chose
Grinch, c'est un autre, film.
Et là, tu parles de quoi là?
De Scrooge.
Ah, c'est pas la même chose.
Non.
Bon, ben, je m'en vais alors. D'accord. Donc je sais pas si c'est Jim Carrey, parce que Jim Carrey c'est l'autre.
Mais Jim Carrey, il a fait Scrooge. Oui,
Scrooge, c'est... pas Picsou, non?
Grinch. Il a fait le Grinch. Et le Grinch, c'est un monstre qui aime pas Noël.
C'est Picsou en anglais. Oui, Scrooge,
mais Scrooge,
c'est Picsou en anglais.
Le film dont tu parles, c'est
Scrooge, oui, mais... c'est pas Picsou, c'est, ouais, c'est Scrooge.
C'est oui, un... mais c'est le... c'est le Scrooge est le nom de Picsou en
c'est
anglais.
Le nom de Picsou,
oui,
en anglais.
Voilà, mais non, aucun rapport.
Aucun excusez-moi rapport. Il s'est inspiré de ça, le père,
je
qui
me
a créé Picsou le canard, mais c'est pas tout à fait la même chose. Justement, je crois qu'ils ont fait un épisode sur ce roman-là de Picsou.
Oh, c'est quasiment sûr.
C'est
oui. Oui.
On va s'arrêter là-dessus et puis on va se retrouver la semaine prochaine. On aura aussi une émission spéciale, mais vous verrez la semaine prochaine.
Et on espère que tous ces films de Noël vous auront donné envie de les voir ou de les revoir.
Et ouais, puis vous dire, c'est bientôt Noël, c'est le moment. De toute façon, si c'est pas maintenant que vous les
regardez, oui, offrir un vieux DVD d'Omelon trouvé dans une brocante, ça peut toujours faire plaisir.
Et du
on
coup,
en trouve partout des films de Noël. Ouais.
Et puis du coup, on peut souhaiter à tous nos auditeurs un très joyeux Noël.
Un très joyeux Noël.
En avance, mais un très joyeux Noël.
Bah, joyeux Noël.
Joyeux Noël à tous. Et puis, on se revoit la semaine prochaine et on vous dira plein de bonnes choses.
On espère.
Bon, bonne fin de journée, bonne semaine et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.